Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, la RDC attend toujours le discours du président Joseph Kabila qui n'a toujours pas eu lieu. Une liste de 146 personnes recherchées pour terrorisme a été publiée au Burkina. Détente entre l'Érythrée et l'Éthiopie après une guerre meurtrière entre ces deux voisins. Journée mondiale des réfugiés, le nombre de personnes déplacées ne cesse d'augmenter selon le HCR. Également dans un peu plus de 10 minutes, le journal du mondial présenté par Yacouba Ouédraogo. Mais d'abord, le journal. En RDC, le discours du président Joseph Kabila devant le Parlement réuni en congrès est toujours très attendu, mais aucune date n'a été précisée à l'ouverture de la session extraordinaire aujourd'hui. Cette session doit durer jusqu'au 19 juillet prochain. Plus de détails avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Réuni depuis le samedi dernier au Palais du Peuple à Kinshasa, le Conseil national de suivi de l'accord, le gouvernement et la CENI discutent de l'organisation prochaine des élections en RDC après que la commission électorale ait annoncé avoir besoin de 504 jours après l'enrôlement pour sa tenue. Il s'agit donc pour la tripartite CENSA-gouvernement-CENI d'évaluer et de déterminer, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, la suite du processus électoral. Présentement, les travaux se déroulent en commission et les conclusions en plénière sont attendues, sauf imprévu, ce mercredi 18 octobre 2017. Pour rappel, la semaine dernière, au cours d'un échange avec les délégués de la société civile, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, avait souligné la nécessité de disposer de ce délai de 504 jours, annonce qui renvoie donc les élections à la deuxième moitié de l'année 2019 et qui a suscité de nombreuses réactions à l'opposition. Le rassemblement de Félix Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe et d'autres partis politiques d'opposition ont dit non à cette proposition de la centrale électorale.
Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, 74 militaires et 7 policiers ont été tués depuis le début du conflit fin 2017 qui oppose les séparatistes armés et les forces de sécurité dans les deux régions anglophones du pays. Plus de 100 civils ont également été tués par les séparatistes armés au cours des 12 derniers mois, selon le gouvernement qui détaille un plan d'assistance humanitaire d'urgence pour ces deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les services de sécurité du Burkina Faso ont publié aujourd'hui les noms de 146 personnes activement recherchées pour appartenance au groupe djihadiste Ansarul Islam et pour des actes ou complicité d'actes terroristes. Les détails avec Lionel Gaïma.
En tête de la liste, Abdul Salam Diko, alias Jafar, présenté comme le leader actuel du groupe Ansarul Islam, très actif dans le nord du pays. 5 de ses frères cadets sont également recherchés. Outre des combattants, des personnes radicalisées, des élus locaux, des leaders religieux et un enseignant figurent parmi les personnes recherchées. Parmi eux se trouve également Diko Umaru Salou, le coordonnateur des activités d'Ansarul Islam, basé à Feretaka et à Foulseré au Mali, et Diko Umaru Hassan, le commandant des bases de Boum Boum, localité frontalière du Mali. Toutes ces personnes sont des Burkinabés. Elles sont accusées de meurtre, d'enlèvement, d'attentats explosifs, d'attaques contre les forces de sécurité. D'autres sont accusées de fournir des renseignements, de guider ou d'héberger des combattants. Le groupe Ansarul Islam a revendiqué plusieurs attaques contre l'armée burkinabé, dont la plus meurtrière avait fait 12 morts en décembre 2016.
L'opposant nigérien Ama Amadou a été déchu de son poste de député après sa condamnation à 1 an de prison pour trafic de bébés au Niger. Vivant en exil en France, l'ancien Premier ministre Ama Amadou avait été condamné par contumace à 1 an de prison en mars 2017 pour recel d'enfants dans une affaire de trafic international de bébés. Quelques 16 000 déplacés civils ont été enregistrés depuis janvier dans l'ouest du Niger par les Nations Unies. Cette zone instable frontalière du Mali est le théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes. En Gambie, un étudiant de 24 ans blessé lundi par des tirs de la police. Cet étudiant a succombé aujourd'hui à ses blessures. Cela porte à 3 le nombre de morts suite à une manifestation contre une pollution industrielle. 6 civils et 16 policiers avaient été blessés durant cette manifestation selon un bilan officiel. Dans une intervention mardi soir à la télévision, le chef de l'État gambien, Adama Barrow, a évoqué une nation en deuil. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar sont arrivés à Addis Abeba, où ils doivent se rencontrer pour la première fois en 2 ans. Le Soudan du Sud est ravagé par la guerre civile depuis 2013. Détente entre l'Érythrée et l'Éthiopie, le président érythréen Isaias Afewerki a annoncé l'envoi prochain d'une délégation en Éthiopie pour discuter d'une paix entre les deux pays. Le point avec Morgan Gayek.
Ce sont les signaux positifs émis par le nouveau Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui ont décidé le président Afewerki. Il a confirmé l'envoi d'une délégation pour, selon ses termes, évaluer directement les développements actuels et pour établir un plan en vue d'une action continue à l'avenir. C'est la première fois qu'Asmara répond aux ouvertures de paix d'Abiy Ahmed. Le Premier ministre éthiopien a amorcé début juin un changement de politique en annonçant son intention d'appliquer l'accord de paix d'Alger, signé en 2000, avec un nouveau tracé de frontières rendant à l'Érythrée la ville de Badme. Un désaccord sur le tracé de la frontière a en partie été à l'origine de la guerre qui avait opposé l'Éthiopie et l'Érythrée de 1998 à 2000 et qui avait fait 80 000 morts.
L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, âgé de 94 ans, se trouve actuellement à Singapour pour une visite médicale. Selon le quotidien Newsday, l'ex-maître du pays s'est éclipsé il y a 2 semaines du Zimbabwe à cause d'un brusque épisode d'hypertension.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est la journée mondiale des réfugiés. Selon le HCR, le nombre de personnes déplacées ne cesse d'augmenter depuis 5 ans à cause des conflits. Bagasikoura.
Dans son rapport annuel, l'agence onusienne chargée des réfugiés dit que rien que cette année, 68,5 millions de personnes ont été déplacées, c'est-à-dire chaque jour, plus de 44 000 personnes sont forcées de quitter leur maison à cause des conflits. Les déplacés internes sont les plus nombreux, avec 40 millions de personnes. Ceux qui ont fui leur pays vers d'autres pays sont plus de 25 millions. Aussi, 3 millions de demandeurs d'asile attendent de connaître leur statut. La Turquie est le pays qui accueille le plus de réfugiés avec plus de 3 millions de Syriens qui ont fui la guerre dans leur pays. Les conflits en RDC et au Soudan du Sud font fuir les populations vers des pays proches. En Birmanie, des centaines de milliers de musulmans Rohingyas ont fui vers le Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde. Pour Filippo Grandi, patron du HCR, personne ne choisit de devenir réfugié, mais ceux qui sont restés chez eux peuvent choisir comment les aider.
Au Yémen, les forces pro-gouvernementales ont repris le contrôle total de l'aéroport de Hodeïda. C'est ce qu'a annoncé la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Après une semaine d'une offensive visant à reprendre cette ville stratégique aux rebelles houthis, Hodeïda, ville de 600 000 habitants sur la mer Rouge, est le principal point d'entrée des importations et de l'aide humanitaire au Yémen, ce pays pauvre et en guerre depuis 2015. Le président américain Donald Trump a annoncé aujourd'hui qu'il allait signer un texte pour éviter la séparation des familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique. L'administration américaine est sous le feu des critiques, tant au niveau national qu'international, alors que plus de 2300 mineurs ont été séparés de leurs parents en 5 semaines. Les États-Unis, qui sont malgré tout redevenus l'an dernier le premier pays de demande d'asile dans l'OCDE devant l'Allemagne, qui était en tête depuis 2013, selon un rapport de l'organisation qui exhorte les États à ne pas ignorer l'inquiétude du public sur le sujet sensible de l'immigration. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit de mardi à mercredi environ 25 cibles dans la bande de Gaza en riposte à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Ces nouvelles hostilités interviennent dans un climat de tension arrivé depuis plusieurs semaines. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Tout de suite, le journal du mondial, présenté par Yacouba Ouedraogo.
Wow. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du Mondial. Que de regrets pour le Maroc. Malgré une prestation aboutie, les Lions de l'Atlas sont d'ores et déjà éliminés de la Coupe du Monde, Russie 2018, suite à leur seconde défaite consécutive. La faute à un Cristiano Ronaldo encore décisif pour le Portugal 1-0. C'est l'entame de match qui aura coûté aux hommes d'Hervé Renard. Sur un cornet en deux temps entre Bernardo Silva et João Moutinho, Cristiano Ronaldo libre dans les 6 mètres surgit pour tromper le gardien Mounir de la tête à la 4e minute. Le Maroc a pourtant présenté quelques références avec comme capitaine le puissant Mehdi Benassia, le Madrilien Achraf Hakimi et l'ancien monégasque Nabil Dira. Le Maroc a couru derrière le score durant toute la rencontre sans parvenir à trouver la faille. Mathématiquement, il n'est pas besoin d'attendre le résultat d'Espagne-Iran pour savoir que le Maroc n'ira pas plus loin que le premier tour de ce mondial russe. Son premier depuis 1998, le sélectionneur tire déjà le bilan de son parcours avec les Lions de l'Atlas, Hervé Renard.
La chose dont je suis sûr à l'heure où l'on parle, c'est que tout le peuple marocain est fier de son équipe, et même très fier de son équipe. Il y a 2 ans et demi, on a commencé une aventure ensemble. On était 81e mondial. Aujourd'hui, je crois qu'on est 41e. On a réussi à se qualifier pour une Coupe du Monde après 20 ans d'abstinence pour le Maroc. Et les 2 matchs qu'on a fait, on a montré qu'on était une équipe qui jouait au football. Alors certes, on n'a pas été efficace. Et je voudrais juste que vous ayez la franchise de l'écrire et que vous écriviez la vérité.
Cette élimination du Maroc a inspiré le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Les premiers matchs de la 2e journée confirment depuis mardi l'élimination de 2 équipes d'Afrique du Nord après les faux pas regrettables de la 1e journée qui ont vu l'Égypte puis le Maroc perdre au temps réglementaire des joutes pourtant équilibrées contre une équipe d'Iran négligée et une sélection uruguayenne maîtrisée. L'Égypte a dû jouer sa survie face à une Russie retrouvée dominatrice par 3-1. Le fait de match étant ce premier but de l'idole continentale Mohamed Salah en fin de rencontre. De son côté, le Maroc souverain en 2e mi-temps devant le Portugal de Cristiano Ronaldo a subi l'inévitable but du monument au début de la rencontre avant de montrer ses réelles capacités 60 minutes durant. Il est en fait certain que la représentation de l'Afrique du Nord en Coupe du Monde ne se pose plus en termes de production. Sa situation géographique à la porte de l'Europe, l'implantation plus ancienne du football dans cette partie du continent, ainsi que son organisation plus moderne, lui permettent de tutoyer le monde développé et d'avoir un passage digne et rassurant lors des grands rendez-vous mondiaux. De ce fait, même si l'élimination de l'Égypte et du Maroc est pratiquement certaine, une bonne prestation de la Tunisie face à la Belgique et la poursuite de la performance sénégalaise peuvent encore sauver la participation du continent, en prime dans toute sa diversité d'expression footballistique. Alors, tous derrière nos champions encore en lice et que la fête continue. À demain.
Dans le 2e match du jour, dans le groupe A, les 8e de finalistes sont connus. L'Uruguay a rejoint le pays hôte, la Russie, après sa victoire 1-0 devant l'Iran. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Luis Suarez à la 23e minute. Demain jeudi, la France de Paul Pogba et l'Argentine de Lionel Messi retournent au combat contre le Pérou et la Croatie avec des objectifs bien différents. Les Bleus peuvent déjà accrocher un ticket pour les 8e de finale en 4 victoires, eux qui ont laborieusement remporté leur premier match face à l'Australie. Écoutons Raphaël Varane, un des défenseurs de l'équipe de France.
On sait qu'il y a des choses à améliorer. On sait aussi l'adversaire qu'on va avoir. Et on sait que c'est un adversaire qui va justement mettre beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils vont faire. On a vu ce qui n'a pas fonctionné. On n'a pas été coordonné dans notre façon de défendre. Et voilà, ça a permis à l'équipe d'Australie de ressortir le ballon. Après, on n'a pas été mis en danger non plus. Donc voilà, il y a des choses positives à en tirer. Et il va falloir, sur le prochain match, être justement plus près les uns des autres sur le terrain, plus proche dans la façon de défendre, que ce soit haut sur le terrain ou bas, il va falloir être plus compact.
L'Albi Céleste espère, elle, tout simplement rester en vie dans cette Coupe du Monde et sa star Lionel Messi voudrait sans doute se racheter après son pénalty raté. France-Pérou, c'est à 15h temps universel et à 18h, on aura la rencontre Argentine-Croatie. Bien avant ces 2 matchs, à 12h, le Danemark fera face à l'Australie. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour le Journal du Mondial.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. La journée mondiale du réfugié est célébrée le 20 juin chaque année. Cette année, un nouveau record a été franchi. Plus de 68,5 millions de personnes ont été déplacées de force de leur pays d'origine. Ce sont les niveaux de déplacement les plus élevés jamais enregistrés. En juin 2016, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a lancé la pétition /WithRefugees pour tenter une meilleure prise de conscience des gouvernements face aux défis et à la détresse que vivent les réfugiés. J'ai joint le porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest, Romain Desclous.
Mais pour nous, le HCR, la Journée mondiale des réfugiés, c'est aussi l'occasion de célébrer l'extraordinaire générosité des communautés, des individus qui accueillent ces personnes qui sont forcées de fuir. C'est l'occasion pour nous de rappeler à quel point cette solidarité est nécessaire. Pour la cinquième année consécutive, nous avons atteint un chiffre record de personnes qui ont été forcées de fuir, personnes qui fuient des conflits, qui fuient la persécution. On a atteint, en fin 2017, le chiffre record de 68,5 millions de personnes forcées de fuir. C'est énorme. Ça fait 5 ans que ce chiffre atteint les records. Ça fait 5 ans que nous pensons que nous avons atteint un record et que nous devons pouvoir trouver des solutions. Ça fait 5 ans que ce n'est pas le cas. Donc ce chiffre est faramineux. Il est très important et il est étalé sur tous les continents.
Un certain nombre de ces crises sont sur le continent africain.
En effet, sur ces 60, la majorité, voire les deux tiers des personnes forcées de fuir, fuient des conflits de 10 pays. Ce qui veut dire qu'une solution sur l'un de ces pays aboutirait mathématiquement à une diminution du nombre de personnes forcées de fuir. Sur le continent africain, deux de ces crises les plus importantes sont la Somalie et sont le Sud-Soudan. Et créer des populations, des mouvements de population énormes. Il faut savoir que l'Afrique est un continent qui accueille le plus grand nombre de personnes forcées de fuir. C'est-à-dire on parle de 6,3 millions de réfugiés. C'est en avant même de l'Europe. L'Afrique subsaharienne a elle seule a un accroissement de 1,1 million de personnes réfugiées. Donc le continent a encore des crises qui génèrent des réfugiés, des personnes forcées de fuir. Mais il faut aussi voir le fait que l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, est une région qui a la possibilité d'accueillir des réfugiés. En Afrique de l'Ouest, par exemple, nous avons 286 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Ce sont des personnes qui ont un accès à la protection internationale. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de faire, permettre aux personnes qui sont forcées de fuir d'avoir un accès à une protection internationale au plus proche des conflits, pour leur permettre d'éviter d'avoir à prendre des risques pour des trajets, prendre des chemins de migration mixte qui les amènent vers des dangers et des risques très importants.
C'était Romain Desclous, porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest. Selon le HCR, plus de 540 000 réfugiés sont hébergés en RDC, principalement venus du Rwanda, du Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud. Au Sud Kivu, la Commission nationale pour les réfugiés, un service technique du gouvernement congolais, plaide pour davantage d'engagement des bailleurs et philanthropes pour aider les réfugiés. La correspondance du Sud Kivu d'Ernest Mouero.
Selon Augustin Boulimuntu, chef d'antenne de la Commission nationale pour le réfugié CNR Bukavu, à ce jour, plus de 80 000 réfugiés rwandais et burundais vivent au Sud Kivu. Parmi eux, plus de 45 300 réfugiés burundais. Le HCR et la Commission nationale pour le réfugié CNR procèdent à l'enregistrement biométrique des réfugiés rwandais en territoire de Fizi et Mwenga. Selon Augustin Boulimuntu, un centre d'enregistrement biométrique est ouvert à cet effet à Minembwe.
Actuellement, la CNR en collaboration avec les HCR, nous sommes dans l'activité de récolte des données sur tablette et l'enregistrement biométrique dans le cadre des réfugiés rwandais. Parce que nous avons un grand nombre dans les territoires de Mwenga et les territoires de Fizi. Là, nos équipes sont descendues pour essayer d'enregistrer et remettre les attestations des réfugiés à ces réfugiés qui sont là. Pour les Burundais qui sont dans les camps de Lusenda et Mulongwe, ils sont déjà passés à l'enregistrement biométrique et on a remis les cartes. La communauté internationale, tout simplement, c'est toujours qu'on fait des plaidoyers pour venir à l'aide à ces à cette catégorie de personnes qu'on a accueillies à bras ouverts. Et parce que vous savez que si quelqu'un vit en dehors de chez soi, il est toujours à la quête de quoi vivre.
Notre source ajoute que depuis le début de l'année 2018, la CNR avec les ACR ont déjà rapatrié 170 réfugiés rwandais pour un total de 2100 rapatriés attendus. En 2017, 6597 réfugiés rwandais ont été rapatriés au Rwanda selon les ACR. La problématique des réfugiés dans la région des Grands Lacs est complexe. L'instabilité politique des part et d'autre des frontières dans la région des Grands Lacs ont entraîné dans l'histoire de la région des mouvements de réfugiés. À Bukavu ou Virailer environ, l'on assiste à un phénomène de réfugiés urbains qui certains font des études, d'autres vivent des travaux des débrouillardistes, le commerce, les travaux de construction, le service dans les hôtels et restaurants et la prostitution. Selon la CNR Bukavu, on compte environ une centaine de réfugiés burundais urbains à Bukavu. Dans la commémoration de la journée des réfugiés à Bukavu, les ACR et la CNR ont ouvert leur réflexion avec les humanitaires et les réfugiés eux-mêmes sur l'avenir du réfugié et leur autonomisation au regard de la rareté des bailleurs de fonds de plus en plus observés pour venir en aide aux réfugiés en RDC. Ernest Mouro pour VOA Afrique, Bukavu.
Au Burundi, la crise a fait fuir des milliers de Burundais vers les pays voisins. Notre correspondant Christophe Kourenziza s'est rendu dans le camp de réfugiés de Kavumu, dans la province de Kankuzo, à l'est du Burundi.
Journée mondiale des réfugiés célébrée dans le camp de Kavumu en province de Kankuzo à l'est du Burundi, un des quatre camps qui compte plus de 16 800 réfugiés en provenance des pays de la région dont la majorité sont des Congolais. Des réfugiés au Burundi qui vivent difficilement, sans nourriture suffisante, sans soins de santé et où les médicaments deviennent une denrée rare. Mais le HCR indique que le problème est dû au financement qui se raréfie à cause de la crise que le pays traverse depuis 3 ans, crise qui est née du troisième mandat de l'actuel président burundais qui a indiqué dernièrement qu'il ne va plus se représenter après les élections 2020 et qui s'adonnera corps et âme pour soutenir celui qui sera élu. Pour les réfugiés et pour l'essentiel des Burundais, lier les deux bouts du mois devient impossible. Chaque mois, tout réfugié congolais devait percevoir sous forme d'aide 4000 francs burundais, soit l'équivalent de moins de 3 dollars américains. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le HCR indique que sur 30 millions de dollars américains que les donateurs avaient accepté de donner, seuls 10 millions et demi de dollars ont été débloqués. Tous les réfugiés congolais demandent aux autorités, aux bienfaiteurs de trouver une solution à ce problème crucial. Signalons que plus de 300 000 réfugiés burundais vivent également dans les pays de la communauté est-africaine, dont la majorité vit en Tanzanie. Les Burundis traversent une crise socio-économique et politique sérieuse après le coup d'état manqué du 13 mai 2015 qui a poussé des milliers de Burundais à quitter le pays. Le président Pierre Nkurunziza appelle les réfugiés burundais à rentrer au pays car la paix est totale d'après lui, ce que démentent les opposants au régime de Bujumbura. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Quelques 5000 Burundais ayant fui la crise dans leur pays se sont réfugiés en Ouganda. Idriss Fall a joint Chantal Mutamuriza, qui dirige l'ONG Light for All ou Lumière pour tous, une organisation qui aide les enfants de réfugiés burundais en Ouganda.
D'après les statistiques du HCR, il y a à peu près 50 000 réfugiés en Ouganda. Les difficultés que rencontre toute personne qui est dépourvue de tout, parce qu'un réfugié, c'est déjà quelqu'un qui a fui dans les circonstances où on doit partir très rapidement, donc ils ont tout laissé derrière. La première difficulté, c'est le manque d'accès aux besoins élémentaires, notamment l'éducation, les soins de santé, etc. Et je parle de l'éducation parce que c'est le domaine dans lequel j'interviens.
Qu'est-ce que vous faites justement dans le domaine de l'éducation des enfants des réfugiés burundais?
J'ai créé un programme qui s'appelle « Aucun enfant laissé à la traîne ». C'est un programme de sponsorship en fait, où j'associe un enfant à un sponsor, donc chef de sponsor, qui puisse justement financer la scolarité des enfants, parce que c'est vraiment la plus grande difficulté des parents, parce que l'éducation coûte et les organismes humanitaires, malheureusement, ne s'occupent pas de l'éducation parce que c'est un programme à long terme. Ils sont beaucoup plus dans l'urgence. Et donc, s'investir dans l'éducation, ça veut dire qu'ils vont dire on va être obligé de nous engager sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et je pense que cela résout la difficulté. Et donc, c'est pour cela que moi, je me suis dit, je contacte des gens, des amis, des bienfaiteurs. Donc, une personne dit, moi, je m'occupe de cet enfant pour minimum un an.
Généralement, vous êtes arrivé à vous occuper de combien d'enfants jusqu'ici?
C'est un nouveau projet qui a commencé. Il y a à peu près, moi déjà, ça fait seulement 18 mois que je suis en Ouganda. Actuellement, à temps plein, j'ai une trentaine d'enfants qui bénéficient de ce programme. Puis il y a aussi des aides ponctuelles, un parent qui essaye et qui, au milieu de l'année, n'arrive plus à payer les frais scolaires. On arrive quand même à mobiliser de petits fonds pour les dépanner.
Vous pensez quand même arriver à bout et pouvoir aider plus d'enfants dans les années à venir?
Mon rêve, c'est que, comme le dit mon programme, qu'un enfant ne soit pas laissé derrière. C'est la seule façon de s'en sortir et d'arrêter ce cycle de conflit. L'éducation, c'est un des solutions pour arrêter justement la machine qui produit les réfugiés. Si on arrive à éduquer le maximum d'enfants, de jeunes, on arriverait quand même à les aider à se prendre en charge et à voir beaucoup plus loin. Mon rêve, c'est vraiment de pouvoir éduquer le maximum. Je me dis que l'année prochaine, le minimum serait au moins de 100 enfants à qui je pourrais aider.
C'était Chantal Moutamouriza qui dirige l'ONG Light for All ou Lumière pour tous, une organisation qui aide les enfants de réfugiés burundais en Ouganda.
Ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Sidrak Franklin. Au micro, Clermont Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.